Dieu, il fait quand même grand froid partout en France et en Europe. Nous allons entrer dans cette chapelle. Nous allons reparler aussi tout à l'heure de votre goût prononcé, Dominique Véville, pour l'art contemporain. Goût qui nous vous permettra d'éclairer aussi la visite que nous ferons dans la deuxième partie de Tout arrive de cette exposition, la sculpture dans l'espace. Avant cela, Dominique Véville, vous avez aussi travaillé autour de la figure de Puvis de Chavannes, le peintre vénéré par Rodin et auquel le musée de Picardie d'Amiens consacre en ce moment une grande exposition. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la voir déjà, cette exposition ?
Vous parlez de l'exposition d'Amiens. C'est une très belle exposition qui, évidemment, au musée de Picardie à Amiens, trouve un lieu qui lui est culturel, sinon naturel, puisque c'est un musée qui, parmi les tout premiers en France, a bénéficié de grands décors de Puvis de Chavannes, comme d'autres, comme Rouen, comme Lyon. D'une part. D'autre part, c'est une exposition très intéressante, puisque pour beaucoup de visiteurs, peut-être des générations précédentes, Puvis était un peintre académique, Puvis était un peintre pompier. Or, ce que l'on a découvert depuis et ce que montre cette exposition, c'est que Puvis de Chavannes, à son époque, était regardé par tous les peintres modernes. Je pense notamment, je pense à Seurat, je pense à Gauguin, qui avait emmené avec lui dans ses voyages et dans ses séjours. Des reproductions d'œuvres de Puvis de Chavannes et qui a travaillé d'après des œuvres de Puvis de Chavannes. Beaucoup pourraient être cités, y compris, je dirais, des artistes comme Picasso, par exemple.
Alors, Brigitte Masson s'est rendue, elle aussi, à Amiens et a demandé à Mathieu Pinette, commissaire de l'exposition, où se situait la singularité, la modernité de Puvis de Chavannes, cet artiste, comme vous le disiez, trop longtemps resté au purgatoire.
Mais c'est un académiste. C'est quelqu'un qui travaille le nu, regarde la statuaire grecque, la peinture classique, Poussin comme les Bolognais et Venise. Donc il a les atours d'une sorte de traditionnaliste. Et puis en même temps, une fois installé dans cet art, il va le grignoter de l'intérieur. Bref, c'est un artiste qui est extrêmement particulier, qui est bien une voix singulière dans cette seconde moitié du 19e siècle.
Alors on peut cerner un peu sa singularité, par exemple, en nous fixant sur quelques grands décors de l'escalier de ce musée de Picardie ou encore de la galerie de ce musée, comme la Concordia.
Oui, je pense que la singularité de Puvis, elle est déjà dans la matérialité de l'œuvre. Puvis est quelqu'un qui, par exemple, donne à ses peintures non pas un aspect brillant, verni, mais une matité qui se réfère à la peinture la plus ancienne qui soit, c'est-à-dire la peinture à la scie romaine. Bien. En plus, les couleurs chez Puvis sont étranges. Ce sont des couleurs souvent décidément très ambiguës. On est toujours un peu dans des entre-deux, c'est sourd. Il y a un côté pastel, entre guillemets. Bref, c'est une peinture en effet camailleux, ce qui fait par exemple qu'on a beaucoup rapproché Puvis au départ des pastels de Millet, et de fait il y a un côté pastel dans la peinture à l'huile de Puvis. De la même manière, ce qu'il y a de d'étrange, c'est la façon qu'il a de disposer les figures dans les paysages. Les figures sont comme plantées dans des paysages, et sortent de des silhouettes qui n'auraient aucun rapport entre elles. Ça va également beaucoup choquer. Ce qui est peut-être encore plus moderne chez lui, c'est l'ambiance qu'il donne à ses œuvres. Ce qui compte, c'est pas tant le sujet, son illustration livresque, comme on pourrait dire, que l'atmosphère qui en vient. Et j'allais dire que Puvis, tout au cours de sa vie, va aller de plus en plus vers une épure du sujet, et quel que soit le thème, il essaie surtout de faire générer à sa peinture, à sa création, une atmosphère qui est celle, finalement très humaine, contenue entre une sorte de félicité vaguement joyeuse et une mélancolie un peu nostalgique. C'est quelque chose qui, par exemple, séduira beaucoup quelqu'un comme Picasso. Le Picasso, notamment, de la famille au bord de la mer, qui d'ailleurs est présente dans cette exposition, est un Picasso qui a beaucoup regardé du côté de Puvis. Matisse, comme même Fernand Léger, sont des gens qui, dans leur vision paradisiaque, quelquefois très, très moderne et très contemporaine, je pense à Léger, évidemment, sont des gens qui vont avoir le souvenir de ces atmosphères idylliques, suspendues, intemporelles, qui participent de la modernité des œuvres de l'artiste.
Voilà, nous avons rejoint notre table installée dans la chapelle rénovée de ce musée Rodin. Nous y retrouvons donc Daniel Dobels, qui sera à mes côtés pour toute cette émission, et Antoinette Lenormand Romain, qui est avec nous, qui est le commissaire de l'exposition La sculpture dans l'espace, dont nous allons parler plus précisément dans la deuxième partie de Tout arrive. Et puis Pierre Santini, qui nous expliquera dans un instant pourquoi il a accepté au débeauté, appelé hier, de venir nous voir aujourd'hui ici même. On entendait à l'instant Mathieu Pinette à propos de l'exposition Pupilles de Chavannes à Amiens. Rodin a souvent réalisé des sculptures représentant ses contemporains, Antoinette Normand Romain.
Oui, bien sûr. Très tôt, il a fait le portrait de ses amis, les gens comme Dalou, etc., ou des jeunes dames qu'il fréquentait. Je pense à la ravissante Madame Vicuña, qui est au musée d'Orsay. Et puis, alors, plus tard, à la fin de sa carrière, devenue très célèbre, il a fait, pour des prix absolument astronomiques, le buste, en particulier, de toutes les dames de l'aristocratie anglaise, ainsi de quelques riches américaines.
Alors, parmi celles et ceux qui ont fait le plus scandale une fois représentés, il y a bien sûr Balzac. Être le Normand Romain.
Oui, mais Balzac, ça n'est pas un portrait.
Non.
Si vous voulez, Balzac, il était mort un peu après la naissance de Rodin. Ils n'ont jamais pu se rencontrer. Donc pour Rodin, c'est une sorte de recréation. Et ce qui lui a été reproché, c'est justement de s'écarter d'un portrait précis, d'un portrait réaliste, pour donner une image du génie de Balzac. Vous savez que quand il a exposé la sculpture, on l'a refusé en disant qu'on ne pouvait pas reconnaître Balzac dans cette statue. C'est le terme qui a été employé et qui dit bien ce qu'il veut dire.
Et pour ses contemporains, parfois aussi, il y avait certaines difficultés à se reconnaître, ou alors la représentation posait peut-être question. On va retourner du côté d'Amiens avec Mathieu Pinette, qui revient justement sur une représentation de Pupilles de Chavannes par Rodin, et qui explique les liens entre Rodin et Pupilles de Chavannes.
Le buste est très passionnant, c'est un buste en marbre qu'on connaît d'autant mieux que Rodin et Puvis ont beaucoup échangé autour de ça et que Puvis n'était pas forcément ravi de la façon dont Rodin le représentait. Par exemple, Puvis trouvait que Rodin la représentait de manière trop hautaine, trop déifiée, et cette vision-là n'a pas forcément plus à Puvis, qui se regardait comme quelqu'un de beaucoup plus approchable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, cette pièce-là, bien sûr, parle de cette espèce de collaboration, ce dialogue artistique entre les deux. Mais ce qui est intéressant, à mon avis aussi, c'est que finalement, Rodin est un peu en sculpture ce que Puvis est en peinture. Et en particulier, ce travail que l'on appelle souvent, pour reprendre un vocabulaire agricole, de marquetage. Alors, on connaît bien chez Rodin cette attitude du marquetage. C'est-à-dire que Rodin est quelqu'un qui fait des greffes permanentes, puisque c'est bien ça, le marquetage. C'est quelqu'un qui reprend dans une œuvre ce qu'il a pris dans d'autres et qui va piochant là une figure, ici une autre, dans des œuvres qu'il a déjà lui-même réalisées, va en créer une troisième à partir de ses propres références qu'il mélange et tord, en quelque sorte. Eh bien, Puvis de Chavannes, lui, a fait la même chose. C'est-à-dire que lorsque Puvis crée une peinture, et il met des personnages, il est fréquent de le voir reprendre une figure ici, reprendre une figure là, pour, dans un troisième tableau, recréer une nouvelle œuvre, mais à partir de poncifs qu'il a pourtant créés auparavant.
Comment vous trouvez ce portrait de Puvis de Chavannes par Rodin ?
Alors, on est surpris et pas surpris de retrouver là le vocabulaire habituel de Rodin. Rodin qui sculpte le visage et... certes sculpte le buste aussi, mais en y laissant les traces de la gradine, les traces de la pointe qui font que le buste a l'air ébauché quand le visage, lui, est au contraire tout à fait achevé. Le deuxième élément, je crois, qui frappe, c'est la façon dont le visage lui-même parle au niveau de ses masses, de ses muscles. C'est-à-dire qu'on est là devant du marbre qui atteint une espèce de souplesse d'expression tout à fait étonnante, quoi. Et puis enfin, il y a la posture générale. Rodin a voulu en effet faire de son dieu peintre une sorte de divinité statufiée, plus avec le socle qui a été conçu, non pas par Rodin d'ailleurs, mais qui a été conçu pour présenter cette œuvre. Le buste est assez haut et en effet fait qu'on le regarde du bas vers le haut. Et il y a en effet cette espèce de déférence du sculpteur pour le peintre qui apparaît assez nettement Et je trouve que cette vision-là, voulue et assumée, revendiquée et conservée par Rodin, malgré les critiques de son ami, est encore vraiment très très visible. Enfin, on la ressent si on ne connaît pas cette histoire-là, les détails de cette histoire.
René Dobbels, vous êtes avec nous, amoureux de Rodin, et vous avez tout de suite envie de réagir à ses propos.
J'ai envie de dire de plus en plus amoureux et de plus en plus admiratif, parce que, ne serait-ce que tout à l'heure en évoquant le scandale qu'a pu représenter le Balzac sur la non-reconnaissance, par exemple, d'un portrait qui pourtant était déjà lui-même posthume, on a déjà sensiblement la sensation que Rodin a éprouvé ou a manifesté un décalage dans la continuité de l'histoire de la sculpture jusqu'au point où il touche à ce que Rilke a incroyablement décrit, à savoir qu'il a découvert ou révélé qu'il y avait un corps autre qui était comme resté latent, clandestin, en attente pendant des siècles, et que c'est par Rodin que ce corps-là enfin advient à la surface des choses, à la surface du monde, et à la surface de nos regards aussi, surtout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, la question de l'identité, donc du portrait par exemple, se déplace aussi, parce que pour Rodin, il ne s'agit pas de faire vrai au sens d'une sorte de réalisme ou de naturalisme des traits, il s'agit de faire passer l'identité même dans le mouvement de la sculpture. C'est-à-dire que le sujet de la sculpture devient lui-même mobile d'une certaine façon, vous voyez, il devient plastique. Il bouge dans la sculpture et, et c'est par ce biais-là qu'il est d'une modernité encore incroyable, quoi.
Commentaire, Antoinette Normand Romain, responsable des sculptures ici à ce musée Rodin.
Je ne sais pas si j'ai tout à fait compris ce que vous vouliez dire, mais moi, une des choses qui me touche toujours chez Rodin, c'est cette capacité de toujours se renouveler et de faire que chaque chose peut devenir une autre. Rodin est quelqu'un, vous savez, pour qui le mot de fin, c'était synonyme de mort. Et aucune œuvre pour lui n'était totalement aboutie. Et évidemment, avec le Balzac, on en a un exemple magnifique, avec tout ce travail qu'il a porté pendant tant d'années. Mais il me semble qu'on le voit de façon presque encore plus nette, peut-être dans les marbres. Et je repensais au grand buste de Puvis de Chavannes, puisque M. Pinel parlait tout à l'heure du portrait le plus officiel, mais est aussi montré à Amiens le dernier des portraits de Puvis de Chavannes par Rodin, qui est cet énorme bloc dont émerge une tête. Et on a l'impression, là, qu'on est dans un autre univers, qu'il y a une sorte de matière qui est en gestation, et que le travail du sculpteur est d'aider tout ça à prendre forme. Et dans ce travail, il est énormément aidé par la matière, puisque lorsque l'on examine ces blocs, et nous avons ici deux ou trois œuvres du même genre, on se rend compte que Rodin utilise des blocs qui sont des blocs difficiles, des blocs triangulaires, des blocs trop étroits, des blocs quelquefois très hauts, et qu'en faisant émerger de cette façon la tête, il arrive à leur donner une sorte de vie qui leur est très particulière.